Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Alors, je vous préviens, la première fois que j'ai rencontré mon invité du jour, on devait enregistrer et finalement, on a passé 4 heures à discuter non-stop et on n'a jamais enregistré au final. Aujourd'hui, je reçois Hélène de Vestel, qui est la fondatrice d'Edeni, qui est une structure qui aide les individus, mais aussi les entreprises à se transformer, à aller dans une forme de radicalité. Mais surtout, avec Hélène, ce dont on discute, c'est de déconstruire nos pensées, de déconstruire le système dans lequel on est, de réfléchir à cette déconstruction à tous les plans. Et évidemment, on parle beaucoup d'écologie et de nos croyances. C'est une conversation que je trouve évidemment passionnante parce que j'adore discuter avec Hélène, tout simplement. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
On va parler d'engagement tous les deux, engagement envers les entreprises. Et je voudrais savoir d'abord ce que c'est que Edeni.
Alors Edeni, c'est un organisme de formation qui crée, anime et diffuse des formations autour de la transition écologique, mais vraiment la transition écologique vue de globalement, c'est-à-dire incluant la santé, mais aussi l'éthique, les problématiques sociales. C'est plus large que la RSE, souvent vue comme vraiment le département faible auquel on laisse quelques rapports. Et nous, du coup, on a réuni un comité scientifique consultatif autour de nous, donc avec des neuroscientifiques, avec des chercheurs sur le climat, mais aussi avec des dentistes, avec des nutritionnistes, avec des énergéticiens qui nous permettent de pouvoir interroger un peu toutes les fausses bonnes idées qui entourent la transition écologique. Alors pour les particuliers, où on a un club qui peuvent venir se former, mais aussi pour les entreprises qu'on accompagne parce que Dieu sait si les fausses bonnes idées y sont pléthore.
Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, moi j'ai tendance à parler de court terme, long terme, c'est-à-dire, moi quand je parle de ça, je parle aussi, tu vois, des entreprises qui d'un coup ont dit qu'il faut produire en France, donc elles vont rapatrier leur production en France et ne vont pas se soucier par exemple des populations locales ou des... impacts admettons une boîte qui fait faire, j'en sais rien, des fleurs dans je ne sais quel pays d'Afrique, et d'un coup on leur dit non, mais là en fait il faut revenir en Europe, et ils laissent les champs sur place, les gens sur place, l'économie, du coup il n'y en a plus, et puis tant pis pour eux, quoi, en fait. Et en fait on ne prend pas en considération ces conséquences-là parfois, et moi c'est un truc qui me touche aussi, c'est-à-dire de vraiment avoir une vision globale de la problématique. Et en fait, ce que toi tu dis, c'est que tu vas encore plus loin dans le social. J'aimerais bien comprendre ça. Est-ce que tu peux développer cette partie ?
Ouais. Alors là, tu prends l'axe du social. Nous, on essaie toujours d'avoir une certaine cohérence, c'est-à-dire de pas pousser un curseur, par exemple, 10 sur 10 sur le social, si les curseurs écologie et santé restent à 0 sur 10. On essaie, mieux vaut avoir une certaine forme de cohérence imparfaite que de pousser dans ces retranchements un des indicateurs. Mmh. En revanche, sur cette question du social, c'est intéressant. Suivons cet exemple du coup d'une entreprise qui exploitait au Nigeria par exemple des champs de roses, de tulipes, et qui veut tout fermer pour faire revenir ça en France. Alors soit, pourquoi pas, effectivement la relocalisation de nos économies, de nos produits est très intéressante, mais dans ce calcul d'externalité négative, très souvent, on va uniquement prendre un indicateur. Là, par exemple, le transport. Le CO2 émis via le transport des fleurs d'un endroit à un autre, mais aussi le coût de la main-d'œuvre, mais aussi, effectivement, peut-être des règles sanitaires sur place qui n'étaient pas respectées. Alors, on se demande bien pourquoi, parce que l'entreprise pourra très bien choisir de faire respecter les mêmes réglementations européennes, même si l'État sur place ne l'impose pas.
C'est clair.
En revanche, on va pas du tout prendre en compte le besoin à la base. Est-ce que, en réalité, cette entreprise, justement, tu parlais de court terme, long terme, sur le long terme, est-ce qu'elle pense vraiment que de fabriquer des roses en plein hiver, même si c'est en France où c'est réchauffé, pour la Saint-Valentin, alors en plus, là, on reboucle, comme quoi c'est infini, en fait, ces liens. On reboucle avec, en plus, des oppressions sociales, de schémas, de stéréotypes de genre, etc., de faits très commerciaux. Bon, ça, c'est juste pour cet exemple très précis, mais en revanche, si on peut le rendre un peu plus global et avoir du recul pour l'appliquer à n'importe quel cas, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser, alors soit sur le CO2, parce que c'est l'indicateur le plus simple, le plus répandu et sur lequel tout le monde est à peu près d'accord sur les méthodologies de calcul. Alors, je dis bien à peu près, hein, parce que bon, ouais. Il y a beaucoup de différences suivant ce qu'on intègre dans ce calcul de CO2.
C'est ça. Et puis, parfois, à combien on calcule la tonne de CO2 aussi?
Oui, alors ça, c'est encore une autre question de la compensation carbone, c'est-à-dire, on va dire qu'on attribue un prix à l'émission de tonnes carbone sur les marchés, ça s'échange. Et puis ensuite, on peut ainsi s'acheter une bonne conscience pour pas grand-chose. Alors moi, ça me rappelle un peu l'Inquisition avec les petits papiers où on pouvait écrire ses péchés, donner un bon chèque à l'Église et puis on allait accéder au paradis ainsi. Bon, je ne suis pas tout à fait sûre que la dynamique du climat et la mécanique des systèmes fonctionnent avec des bons de compensation carbone. Mais soit... Tout système est imparfait, il faut bien commencer par quelque part et aller en s'améliorant. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Mais du coup, effectivement, suite à cette problématique très fréquente et bien entendable, nous, on a la même problématique chez Edeni, par exemple. Comment on va calculer notre impact? Est-ce qu'on prend uniquement le CO2? Est-ce qu'on prend uniquement l'épuisement des ressources? Est-ce qu'on prend uniquement si tout notre matériel est de seconde main? Bon. Par exemple, électronique, c'est le cas. Est-ce que on prend en compte le fait qu'on est tous basés localement? Est-ce qu'on prend en compte la diversité au sein de nos équipes? Est-ce qu'on prend en compte la santé qu'on procure à nos élèves, aux participants, mais aussi à nous-mêmes en interne, en n'ayant pas de perturbateurs endocriniens à l'intérieur de tous les produits qu'on utilise, etc. Bon, c'est très vaste. Et du coup, pour répondre à cette nébuleuse qui peut faire peur, de se dire « ouais, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'on se base sur quelque chose », on a créé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie en approche ESE, donc ESE pour écologie, santé, éthique, qui permet, un peu comme une analyse de cycle de vie d'un produit, eh bien de mieux arbitrer, en tout cas en évitant un maximum de fausses bonnes idées et de biais, de prendre une meilleure décision à titre individuel ou collectif.
Tu parles beaucoup ça fait deux fois que tu parles de fausses bonnes idées. Tu peux donner des exemples de fausses bonnes idées? Alors, la compensation carbone, c'en est une évidente. Enfin, peut-être que tu peux expliquer, parce que je suis pas certain que ça soit très clair pour tout le monde, que la compensation par carbone, c'est une fausse bonne idée.
Oui.
Est-ce que tu en as d'autres aussi? Enfin, d'abord, expliquer pourquoi ça n'est pas une bonne, et ensuite, donner d'autres exemples.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment on se permet de juger que c'est une fausse bonne idée ou pas. Parce que sinon, c'est un peu trop simple. Là encore, il y a plusieurs indicateurs. Ça peut être, par exemple, est-ce qu'il y a des effets rebonds? Alors, des effets rebonds, ils sont de diverses sortes. Tu as des effets rebonds directs, indirects. Les effets rebonds, ça a été un terme qui a été inventé à l'origine sur les TIC, donc, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication.
Qui avait des...
Ouais. Ah, oh là là. Ouais. Je me rappelle que j'étais allée à l'ONU à Genève faire un talk là-dessus. Effectivement, tu as un département entier dédié aux TIC. Donc, ces technologies de l'information et de la communication, bon, elles ont un cycle de vie. Donc, déjà, là, on peut se dire, OK, est-ce que vraiment c'est bien de fabriquer ce micro vu tout ce qui va consommer de ressources, de à son usage, à sa fabrication, production, utilisation, fin de vie. Bon, là, ok, c'est direct. Ça, c'est quelque chose qu'en général, bon, quand les entreprises y mettent les moyens, et c'est souvent le cas en France, on a plutôt un bon panorama des impacts directs et des effets rebonds de la fabrication d'un produit ou d'un service. Ensuite, il y a des effets de deuxième ordre dans les effets rebonds. Ça, c'est les applications de ce produit et de ce service à d'autres secteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets d'induction, des effets d'optimisation et des effets de substitution. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as créé un nouveau micro, c'est super, sauf que du coup, ce nouveau micro, bah, il va remplacer plein d'autres micros qui étaient déjà existants. Et que, bon, ok, ils étaient peut-être un peu moins bons techniquement, mais en vrai, ils ne méritaient pas de se retrouver à la poubelle, c'est difficile à recycler, etc. Donc là, en fait, c'est pas juste que ton produit, il n'est pas bon, c'est qu'il arrive en remplacement de quelque chose de déjà existant et du coup, il va créer un énorme appel d'air de produits à la déchetterie, quoi. Et puis aussi, ça dépend à quoi il se substitue. Par exemple, le smartphone, c'est un bon exemple de produit qui a... Bon, c'est très néfaste, on est d'accord. Et de l'autre côté, si je peux me faire l'avocat du diable sur cet exemple d'effet rebond, bah, ça remplace plein de produits. Ça peut remplacer un microphone, ça peut remplacer un appareil photo. Et du coup, tu as plein de produits en un. À l'inverse, tu as des produits qui se spécialisent. Et du coup, avant, tu avais un morceau de papier et ça te servait à caler une table, à écrire, à envoyer un mot doux, à faire un papier en avion, etc. Avec une tablette pour écrire, tu fais pas grand-chose à part ça, quoi. Et puis ensuite, tu as les effets rebonds de troisième ordre, dit systémique, qui là induisent carrément un changement social, un profond changement structurel vers une économie dématérialisée. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment les fausses bonnes idées, les effets rebonds, les nouvelles infrastructures critiques d'information, par exemple la 5G. Je veux dire, peut-être que la 5G, bon, je ne dis pas que c'est des, voilà, c'est pas des nanoparticules par le vaccin, etc. On va pas rentrer là-dedans.
Non, surtout pas.
Non. Donc peut-être que la 5G, effectivement, c'est peut-être bien pensé, c'est peut-être un bon produit, c'est peut-être etc. Mais dans tous les cas, je veux dire, même s'il y avait pas de problème sur les deux premiers ordres. D'effets rebonds, bah sur le troisième ordre, de manière systémique, ça va demander plein de nouvelles infrastructures, il va falloir changer tous nos matériels et surtout, du coup, les gens, ils vont s'habituer. Et c'est là où intervient le profond changement structurel, c'est qu'en fait, ça va devenir inconcevable de ne pas avoir, alors c'est déjà un peu le cas, de ne pas avoir sa vidéo en HD, en 4K, absolument immédiatement comme ça. Tu te rappelles de l'époque? Ça ne va pas nous rajeunir, Grégory, je suis désolée. ça ne va pas nous rajeunir, ni nos auditeuristes, suivant leur tranche d'âge. Mais il y a une époque où, quand on se connectait à Internet, on avait du
Je me souviens bien. Moi, j'ai connu l'époque sans Internet, tu sais.
Voilà, tu te rappelles. Et du coup, en fait, ça se méritait, quoi. Quand on se connectait, son ordinateur, le temps qu'il s'allume, déjà, on avait le temps de prendre tout son petit-déj avant que l'ordinateur soit bien allumé, Internet pareil. Et donc, quand on était dessus, on en avait un usage raisonné. Et maintenant, c'est tellement devenu une habitude que les coûts numériques, environnementaux, sociaux, nos addictions aux écrans, donc en termes de santé, d'éthique et d'écologie, ça a explosé, pas seulement parce qu'il y a un produit qui est arrivé, mais pour le changement structurel qu'il a entraîné, quoi.
Alors, complètement. Je vais me faire l'avocat du diable aussi. Ouais. Évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est une conversation. Parce qu'en fait... Par exemple, si on prend le micro que tu as dans les mains, enfin devant la bouche en tout cas, ça dépend aussi de l'usage que tu en fais. Par exemple, tu vois, là, ça nous permet de passer une parole qui, à mon sens, va permettre de développer une nouvelle manière d'envisager la vie, nos modes de vie. Donc, tu vois, ça, c'est une chose. Mais si je prends de manière plus large, si je prends Internet, ça peut... C'est pas forcément le cas, attention. Hein, j'imagine que c'est ce que tu vas me répondre. Mais ça peut limiter des transports d'humains. Ça peut faciliter l'information. Ça peut, même si... Bon, bref, on sait que la majorité des gens font principalement du divertissement sur Internet, mais... Tu vois, ça peut, il y a plein d'effets positifs aussi, en fait. C'est ça le
Bien
truc.
Sûr. Mais le but, c'est pas de dire que, enfin, c'est pas de faire une catégorie. Ça, c'est absolument mauvais et ça, c'est absolument bon. Ça n'existe pas ni pour les êtres vivants ni pour les produits ou les services qu'on crée. Mais les effets rebonds ou les fausses bonnes idées, c'est lorsque les bénéfices écologiques d'une politique ou service ou produit sont largement compensés par des impacts écologiques négatifs induits directement ou indirectement. Par exemple, tu vois, si tu achètes, je sais pas, si tu as une voiture qui te permet d'aller beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus confortable, en fait, tu vas accepter de rouler beaucoup plus de kilomètres alors qu'à la base, tu n'en avais pas forcément besoin. C'est comme dès que tu fais des économies, et ça, c'est encore une fois, hein, tout ce que je te raconte, c'est pas... c'est la particularité d'EDENI, c'est qu'avec notre comité scientifique, et on est vraiment des... Enfin, alors, premièrement, des pédagogues, mais aussi, on pourrait dire, des chercheurs et des chercheuses, pas des savants. En tout cas, on étudie vraiment ces sujets à fond, et tout ce que je te raconte est basé sur des études vraiment poussées, consensus scientifique depuis plusieurs années. Donc, par exemple, ces effets rebonds, ils ont été calculés en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sur divers produits. Les plus célèbres, c'est les économies d'énergie. Mmh. En fait, plus le coût de l'énergie a baissé, ça n'a pas permis aux foyers de faire des économies, ça leur a permis de plus se chauffer.
Ouais, complètement.
Et c'est ce qu'on observe dans tous les bâtiments, tu sais, qu'on appelle les HQE, haute qualité énergétique, et qui en fait sont très très bien isolés. Et en fait, les gens ont tendance à surchauffer. Plutôt que d'être avec un pull et consommer presque rien et payer presque rien en énergie, ils vont être en t-shirt en plein hiver dans un bâtiment qui est surchauffé alors qu'il n'y avait pas forcément besoin que ça. Donc, c'est ça le problème. En fait, c'est OK, on améliore les choses, mais à quel prix, à quel coût? Et là encore, nous, on n'a pas la vérité absolue. Hein, personne ne l'a. Mais c'est des débats de société qu'on n'a pas. Et on ne l'a pas ni à l'échelle d'un foyer, ni à l'échelle d'un couple, ni à l'échelle d'une entreprise. En général, on fonce tête bêche dans... On a un problème, il faut une solution, il faut se donner bonne conscience, il faut améliorer les choses. Mais on ne s'oppose pas la question de... En réalité, quels sont les effets que ça va induire? Est-ce que ce n'est pas presque pire que ce à quoi on voulait résoudre? Alors, par exemple, une fausse bonne idée très répandue, c'est... alors, je vais t'en donner deux. La première, c'est d'avoir des tablettes numériques partout pour éviter le papier. Par exemple, en se disant, oui, nous, on imprime énormément de... J'en sais rien, on a une petite gazette trimestrielle dans l'entreprise. Et on se dit qu'on va tout passer, on va mettre des tablettes numériques un peu partout, des liseuses. Et puis les gens, comme ça, en plus, ils pourront mettre leurs livres dessus et tout lire. En réalité, il y a une étude qui a été faite par Carbone 4 et Hachette en 2014, je crois, qui étudiait l'impact sur toute la durée de vie, donc à la fabrication, à l'usage et à la fin de vie, des tablettes et des liseuses versus lire plus de 52 livres par an. C'était l'indicateur
qui dans l'étude.
C'est rare déjà, à part toi peut-être, mais du coup...
Moi c'est possible, mais...
Mais tu vois, même jusqu'à 52 livres par an, il vaut mieux acheter tous ces livres, même avec l'impact désastreux effectivement de la papeterie, des cols, des phtalates, de l'eau, des arbres coupés, etc. Mais même avec cet impact négatif, il vaut mieux acheter 52 livres et les jeter. Tu vois, déjà, c'est ce qu'on fait jamais. En général, on se les prête, on les remet à une bibliothèque, etc. Mais quand bien même on les achèterait, on les jetterait, ça ferait toujours moins d'impact négatif, d'externalité tout confondu, que des tablettes numériques qui, d'un point de vue déjà extraction de ressources avec le lithium, les terres rares que ça demande, la batterie qui n'est pas forcément recyclée, etc., ça va être très nuisible. À l'usage, ça consomme de l'électricité à chaque fois qu'il faut la recharger. Ça peut abîmer les yeux, alors pas les liseuses qui sont faites pour, mais bon, on a l'idée. Et en plus, la fin de vie est très maltraitée et au final, ça ne remplace pas du coup... et puis en plus, l'éthique de là où sont fabriquées en général ces liseuses et ces tablettes numériques. Donc ça, c'est le premier fausse bonne idée qu'on voit très souvent. Et la deuxième, très rapidement, c'est de remplacer tout son parc de véhicules, quand bien même diesel, par un parc de véhicules électriques d'un coup comme ça, en se disant que du coup, c'est... c'est positif, alors que non, il vaut mieux dans tous les cas. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. La meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée. Et le meilleur produit acheté, c'est celui qui n'est pas acheté, justement.
Ou alors qui existe déjà. Enfin, ou alors qui est acheté en seconde main, potentiellement.
Exactement. Exactement, merci.
Ça, c'est un truc qui est... Non, mais c'est vachement important parce que, en fait, je crois que les personnes qui nous écoutent peuvent aussi avoir du mal à savoir quoi faire, comment faire. On nous dit pas mal de choses et finalement, c'est assez difficile. Dans ce que tu disais, il y a plusieurs éléments. Tu parlais au tout début des indicateurs qu'on suit. Ça m'a fait penser à la Maïf, tu sais, que j'ai rencontré pour le patron de la Maïf, Pascal Desmurgés, pour mon bouquin, qui explique que lui, il a quatre KPI, ce qu'on appelle les KPI, donc des indicateurs de performance, qui sont la satisfaction des salariés, la satisfaction des clients, l'impact carbone, et puis évidemment la performance financière. Donc c'est en fait une réinvention de ce que c'est que la croissance et ce que c'est que la performance. Est-ce que tu vois ça beaucoup dans les entreprises? Tu disais qu'il y avait pas mal d'entreprises qui allaient quand même plutôt dans le bon sens dans ce que tu vois.
Qui vont, alors c'est indéniable que à part quelques entreprises, mais la plupart, en France en tout cas, améliorent leur objectif RSE affiché. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en réalité, parce que ça... Encore une fois, moi, je ne me permets pas de juger est-ce que c'est fait en toute conscience ou est-ce que c'est malveillant de faire du greenwashing, etc. Moi, je suis convaincue pour les personnes que je rencontre qui me montrent leur facette aussi de père, de mère, etc., que la plupart des gens ont envie de bien faire. Comme dit souvent Guillaume Meurice dans ses chroniques ou dans des interviews, il ne pense pas que le gouvernement ou un chef d'entreprise extrêmement polluante se dit « Ouais, aujourd'hui, je vais niquer la planète. Génial, je suis trop contente. Ah, et puis, j'ai entraîné l'esclavagisme de 1000 nouveaux petits enfants, etc. » Pas du tout. En général, les personnes essaient toujours
fous,
d'améliorer.
Hein.
Ouais. Bon, il y a aussi des psychopathes, hein, aux États-Unis. Mais je pense que la plupart, c'est juste qu'ils vivent dans une autre matrice. Alors après, on peut se permettre de juger cette matrice, ça c'est encore un autre débat, mais on vit vraiment, comme dans le film Matrix, dans des réalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles la matrice, l'essentiel, et souvent ce sont les premiers à en souffrir d'ailleurs, c'est de privilégier l'entreprise, le mythe de l'entreprise, alors que ça n'existe pas, hein, c'est juste un rassemblement d'individus qui s'organisent collectivement, mais bon, qui veulent sauver le mythe de l'entreprise où ils ont l'impression que c'est obligatoire, qu'on n'a pas trop d'autres choix, que c'est les règles économiques, etc. Et il y en a d'autres, au contraire, leur matrice, ça va être leur foyer, leur enfant, etc. Il y en a d'autres, ça va être l'harmonie avec le vivant, etc. Bon, chacun vit un peu dans sa matrice, quoi, qui ne correspond pas forcément à une réalité. Là, ça ferait avancer trop sur le domaine de la philosophie de l'éthique et du langage, de qu'est-ce qui symbolise, qu'est-ce qui est une représentation du réel ou pas. Mais dans tous les cas, une fois qu'on a compris ça, la chose, moi, que je trouve la plus pertinente à faire, c'est vraiment de libérer le débat et d'avoir des communications franches, radicales, qui ne passent pas par 10 milliards d'entendements, de bienséances, etc. Ben non, ça, on ne peut pas dire ça, ça, on ne peut pas dire ça, on doit respecter. Non, juste soyons des êtres humains,